Bonjour frères et sœurs. Je vous invite ce matin à ouvrir dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe au chapitre 6. Ésaïe chapitre 6, nous lirons à partir du verset 8. J'ai entendu le Seigneur dire : qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous ? J'ai répondu : me voici, envoie-moi. Il a alors ordonné : va dire à ce peuple, vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne saurez pas. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et ferme-lui les yeux pour qu'il ne voie pas de ses yeux, n'entende pas de ses oreilles, ne comprenne pas de son cœur, ne se convertisse pas et ne soit pas guéri. Je vous invite à faire une deuxième lecture dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13. Matthieu chapitre 13, il s'agit ici de la parabole des terrains. Nous n'allons pas lire toute la parabole, mais une partie. Matthieu chapitre 13, verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent : pourquoi leur parles-tu en parabole ? Jésus leur répondit : parce qu'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux cela n'a pas été donné. Verset 13, il dit : c'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent pas et ne comprennent pas. Pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe : vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Je voudrais vous inviter à faire une troisième lecture dans l'Apocalypse, au chapitre 3, s'il vous plaît. Nous lirons la lettre à l'église de Laodicée, cette septième église dont il est cité ici. Verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée ou à l'envoyé. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur ou le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis : je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or pur purifié par le feu afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs afin que tu sois habillé et qu'on ne voie plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux afin que tu voies. Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la bouche, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Nous avons fait la lecture de ce passage d'Ésaïe qui date d'environ quelques 750 ans avant Jésus-Christ. Et Dieu donc envoie Ésaïe en le prévenant déjà que son message ne sera pas pris en compte. Et cependant, si Dieu envoie son serviteur, c'est afin d'interpeller son peuple. Et je crois que nous qui avons des oreilles, frères et sœurs, je crois qu'il est important d'écouter ce que l'Esprit dit aux églises, ce que la parole de Dieu nous révèle, que ce soit dans nos lectures quotidienne, dans nos lectures personnelles, dans nos partages ou dans nos réunions, parce que je crois que Dieu est celui qui parle d'une manière comme d'une autre. Mais parfois, il est vrai qu'on n'y prend pas garde. Et lorsque Jésus est venu, il va donc parler en parabole. Et il va expliquer pourquoi il parle en parabole. Il va dire que pour le peuple s'accomplit cette parole que Dieu a prononcée par Ésaïe quelques 700 ans plus tôt. Donc on pourrait dire que 700 ans se sont passés, mais on voit que le cœur du peuple de Dieu semble être toujours le même et tomber dans les mêmes travers. Si bien que le Seigneur, pour éveiller l'attention de ses contemporains, va utiliser les paraboles comme moyen pour interpeller. Et je crois que Dieu, d'une manière ou d'une autre, cherchera toujours, d'une manière ou d'une autre, d'interpeller notre cœur. Nous l'avons lu dans la lettre à l'église de Laodicée où il dit « Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. » Nous sommes l'objet de l'affection de notre Dieu. Notre Dieu nous aime, il n'y a pas de doute là-dessus. Et nous l'avons exprimé dans nos louanges et notre frère l'a rappelé également dans l'exhortation au moment de la scène. L'amour et l'affection de notre Dieu, nous célébrons la scène pour nous rappeler l'œuvre de Christ à la croix, que Dieu nous a tellement aimés que lui-même s'est donné par amour pour nous. Mais ce Père aimant, eh bien, nous venons de lire, il dit, « Je reprends et je corrige ce que j'aime. » Justement parce qu'il nous aime. Et je crois que vous savez aussi bien que moi, les parents qui ne corrigent pas les enfants, ce n'est pas comme ça qu'on les aime. L'enfant a besoin de la correction. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin que parfois Dieu intervienne d'une manière énergique dans notre vie pour redresser. Et en ce qui concerne l'église de Laodicée, il va dire, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend et qui ouvre, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Nous l'avons lu, l'église de Laodicée se dit « Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. » Et c'est certainement une réalité qui est là dans l'église. Et que certainement, lorsque cette église est visitée, certainement que c'est quelque chose qui se voit. Mais nous savons que notre Seigneur ne regarde pas à ce qui frappe les yeux, mais ses regards vont jusqu'au cœur. Et c'est toujours au cœur de l'homme que Dieu veut s'adresser. Et je voudrais, frères et sœurs, ce matin, que nous comprenions que le Seigneur se tient à la porte et il ne cessera de frapper parce qu'il désire entrer, retrouver la place qui lui est due dans notre vie, d'une part, et d'autre part, eh bien, être en communion avec nous. Béni soit Dieu de ce que sa compassion, son amour et sa miséricorde sont tellement grands que malgré ce que nous pouvons être, eh bien, il vient toujours à la recherche de la brebis qui se perd. Et je voudrais que ce matin, en partageant ces quelques pensées, nous comprenions que l'importance d'entendre la voix de Dieu, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Et ce que je voudrais qu'on comprenne aussi, c'est que nous l'avons lu dans ces trois textes, ce même message de 700 ans avant Jésus-Christ, lorsque le Seigneur est venu, et dans le dernier livre, le livre de la Révélation, où il nous parle des sept lettres aux églises, nous comprenons souvent que les sept églises nous parle, c'est vrai, d'une réalité de cette époque-là, mais nous savons que la parole, elle est prophétique aussi. Elle nous parle aussi de l'Église de la fin des temps. Et ce qui m'a interpellé ici, c'est que le Seigneur dit ceci, « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, est-ce que vous entendez une voix? Non, vous entendez un bruit. Mais ici, le Seigneur, il dit, je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix. Je voudrais que nous comprenions que maintes fois, le Seigneur, par sa parole, a frappé à la porte de notre cœur. Et il dit, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le souper, c'est le dernier repas de la journée. Et je me pose la question, si l'Église des derniers temps que nous sommes, est-ce que nous prenions conscience que c'est peut-être le dernier temps où Dieu est en train de frapper à la porte de l'Église et qu'il nous interpelle sur notre réalité. Et la réalité de l'Église, c'est la réalité de chacun et de chacune d'entre nous. Et que Dieu désire partager ce repas avant qu'il ne soit trop tard. Je voudrais que nous soyons interpellés sur cette nécessité maintenant. Parce que l'instant présent, c'est le seul instant dont nous disposons. Nous n'avons pas de pouvoir ni d'autorité sur les instants à venir. Nous nous projetons, c'est vrai, mais nous n'en savons rien. L'instant dont nous disposons, c'est maintenant. Et pour le Seigneur, c'est maintenant le temps de Dieu. Ce n'est pas tout à l'heure, demain. Peut-être que cette parole est pour quelqu'un ou c'est peut-être la dernière réunion où tu auras l'occasion d'écouter la voix de Dieu. Et que c'est maintenant qu'il faut que tu mettes en règle ta vie, parce qu'après cela risque d'être trop tard. Parce que tu es déjà sur le temps de la fin. Tu ne le sais pas peut-être, et assurément qu'on ne le sait pas. Seul Dieu le sait. Voilà pourquoi il est pour nous important de prêter attention à ce que l'Esprit dit à l'Église. Pas le prédicateur, parce que nous sommes tous au même point, mais de prêter attention. Je me suis fait un film en lisant ce texte, parce que le Seigneur dit, je frappe à la porte. Et ceux qui sont à l'intérieur de cette maison ne se rendent pas compte du drame qui est en train de se passer. Ils n'en sont pas conscients. Bientôt, ça va être la catastrophe. Et je crois que depuis un moment déjà, le Seigneur frappe. Pour leur faire part que ce qu'ils pensent, ce qu'ils croient être, n'est pas la réalité. Et le Seigneur veut leur faire part de la réalité de la situation. Et non seulement leur faire part de la réalité de la situation, mais leur donner les remèdes qu'il faut. Et quand on regarde les sept églises, la seule église à laquelle le Seigneur n'a pas fait d'éloge pour dire que néanmoins tu as ceci, c'est l'église de Laodicée. Et je me suis posé la question si l'Église d'aujourd'hui, pas uniquement nous, mais l'Église d'aujourd'hui, est-ce que nous ne sommes pas dans cette situation? Ou parce que tout va bien, on est en paix, on est dans la sérénité, il y a des âmes qui s'ajoutent à l'Église, il y a les offrandes, on se dit, on est riche. Il y a tout ce qu'il faut. On peut se lancer dans des projets. Que s'est-il donc passé pour que cette église soit arrivée à ce point-là? Que s'est-il passé pour que cette église qui a été l'objet, qui a pris naissance par la prédication de la parole, de l'évangile, et qui certainement a commencer avec enthousiasme, avec amour, avec entrain. Que s'est-il passé pour que le verdict soit aussi sévère? Sommes-nous prêts à entendre le verdict de Dieu si Dieu parlait à chacun de notre cœur? C'est une question que, frères et sœurs, vous savez comme moi, chacun devra y répondre. Néanmoins, je voudrais nous parler des causes possibles. Parce que je crois que quand le Seigneur, il a parlé de partager la parabole du semeur, il parle, c'est vrai, de la réalité du peuple de Dieu. C'est au peuple de Dieu qu'il parle, hein. Ce n'est pas à des païens qui ne connaissent pas Dieu. Non, c'est au peuple de Dieu qu'il parle, lorsqu'il parle des terrains. Hein. Et je crois qu'il est bon que nous-mêmes, nous nous sentions concernés. Voilà. Et que nous nous sentions interpellés pour dire, Seigneur, quel est le terrain qui me correspond? Alors, lorsque le Seigneur il a parlé de la parabole du semeur, il a commencé par cette semence qui est tombée le long du chemin. Voilà. Et puis, celle qui est tombée dans les endroits rocailleux. Et puis, cette semence qui est tombée dans le terrain où il y a les épines et les ronces, etc. Et en quatrième lieu, eh bien, il a parlé de ce terrain qui est favorable, et ceux qui étaient là mardi dernier, nous avons parlé du fait que le désir de Dieu, c'est que nous soyons ce terrain. C'est ça le désir de Dieu. Et c'est ce que Dieu a accompli pour nous au travers de Jésus à la croix. À la croix, le Seigneur, il a accompli tout ce qui est nécessaire pour que ce terrain soit débarrassé de tout ce qui empêche la bonne semence. Et la parole de Dieu nous dit que nous avons été régénérés, ramenés à la vie, restaurés, rendus vivants par la parole. Et j'ai entendu dans les prières tout à l'heure que, Seigneur, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Et c'est vrai. C'est le Seigneur qui a les paroles de la vie. Et nous le confessons. C'est une réalité. Mais comment se fait-il que cette Église est parvenue à ce point où elle est devenue misérable, malheureuse, pauvre, aveugle et nue, alors qu'elle, elle croit que tout va bien? Je crois que c'est quelque chose qui se passe dans le temps. Vous voyez? Dans le temps. Ce n'est pas quelque chose qui est venu du jour au lendemain. Mais dans le temps, il y a des choses qui se sont installées. Alors, si nous regardons ici l'église de Laodicée, la ville de Laodicée, c'est la ville la plus riche des sept églises que nous avons citées, les sept églises de l'Apocalypse. C'est celle qui est la plus riche. Il y a des banques, où il y a des gens qui viennent échanger de l'argent, faire des affaires, etc. Il y a une manufacture de laine. Et puis, il y a une école de médecine. Donc, c'est une ville qui est, si on peut dire comme ça aujourd'hui, moderne. Voilà. Et nous réalisons que cette modernité, si on peut dire comme ça, qui est dans la ville, il y a le développement, etc., eh bien, ce contexte influe, a des répercussions dans la vie de l'Église. Puisqu'elle-même, elle dit, je suis riche. Et c'est vrai que si il y a un développement économique dans cette ville, forcément, il y a répercussion dans les offrandes de l'Église. Enfin, tout du moins, je le crois. Donc, il y a possibilité de faire des projets. Voilà. Ils sont en activité. Mais, le Seigneur va dire que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Voilà la réalité que le Seigneur dénonce, met en lumière concernant cette Église. Et il va dire, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu entends ma voix, et je voudrais que ce matin nous entendions la voix de Dieu, et que tu ouvres la porte, et je voudrais que ce matin on ouvre la porte, on dit Seigneur, si c'est toi qui parles, j'ouvre ma porte, entre, et s'il faut comme tu as fait pour le temple de Jérusalem, fais le ménage pour qu'à nouveau le temple que je suis soit une maison de prière, une maison où il y a une relation vraie et sincère avec Dieu. Ce qui fait la spiritualité, si on peut dire, de l'Église, c'est chaque chrétien. Parce que chaque chrétien fait partie de l'Église, et l'Église. Sans chrétien, il n'y a pas d'Église. Mais l'Église, c'est la volonté de Dieu. C'est lui qui a donné naissance à l'Église. Et nous devons, comme cela a été dit, toutes les fois, dans toutes les situations, revenir toujours, sans cesse, à la croix. Parce que c'est là que Dieu a tout accompli pour nous. C'est là où Dieu va à nouveau parler à notre cœur. C'est là où nous réalisons que celui qui est roi, non seulement il s'est fait serviteur, mais il a pris ma place. Chose, comme l'a dit notre frère, nous ne voyons pas dans ce monde. Nous pouvons voir que ici, donc, le contexte a influé sur la vie de l'Église. Et lorsque nous voyons les quatre terrains, eh bien, le troisième terrain, il nous parle des soucis, de l'attrait, de la séduction, des richesses, du monde, etc. Que cela étouffe la parole et ne lui permette pas d'arriver à maturité. Que lorsque on commence à porter le regard à l'extérieur, pour différentes raisons, peut-être en raison des problèmes et des difficultés par lesquelles nous passons, etc., on commence à détourner nos regards de la croix pour regarder ailleurs. Comme cela a été dit dans ce don spirituel tout à l'heure, on commence à ne plus aimer sa femme ou son mari en raison des difficultés qu'on vit et on commence à porter nos regards ailleurs et le monde commence à entrer et à pénétrer dans notre vie. Et nous savons, la parole de Dieu le dit, le monde est inimitié contre Dieu. Et lorsque nous regardons les Écritures, il nous est dit qu'un des collaborateurs de Paul, Démas, c'est Paul qui, dans sa lettre à Timothée, dira, viens vers moi, parce que Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Quand le monde entre dans la vie du chrétien, du croyant, dans la vie de l'Église, eh bien, on est en train de s'éloigner de Dieu. Et je crois que Dieu est en droit de frapper pour nous ramener à la réalité, à la vérité. Parce qu'il y a des choses que lorsqu'on on vit pleinement dans la vie de l'esprit, on condamne. Mais lorsque le monde commence à faire son influence dans notre vie, on commence à trouver que c'est peut-être possible. Voyez ? Et je me suis dit, en prenant dans le sens inverse les terrains, là, que quand le monde entre dans la vie du croyant, l'étape suivante, c'est le terrain rocailleux. Voilà. Vous voyez ? C'est qu'il dépose, le monde dépose dans le cœur du croyant des choses. Et là, lorsque le croyant entend, eh bien, alléluia, mais pour quelque temps. Pour un temps. Des merci Seigneur pour la parole. Mais lorsque survient l'épreuve, tout ça s'est oublié. Et le terrain pierreux nous parle du fait de manque de profondeur. Pas de profondeur. C'est le manque de constance. C'est le manque de persévérance. Alors que le Seigneur dit, c'est lui qui il nous invite à ne pas seulement nous borner à écouter, mais à mettre en pratique la parole. Et il dira que celui qui met en pratique la parole est semblable à celui qui a construit sa maison sur le roc et qui a creusé profondément pour poser les fondements sur le roc, de manière à ce que lorsque l'épreuve survient, eh bien, il résiste. Et le manque de profondeur dans la vie du croyant amène une instabilité, forcément. Un coup, on est avec le monde, un coup, on est avec les chrétiens, on loue Dieu. Et voyez, quand il y a des choses qui sont implantées dans le cœur de l'homme, par le monde. Eh bien, lorsqu'on lit les trois évangiles, Matthieu, Marc, Luc, sur le terrain, on voit que l'ennemi est présent. Et dans les trois évangiles, il nous présente l'ennemi de trois manières. Le diable, Satan, le malin. Alors, le temps me manque de vous parler de pourquoi le diable, pourquoi le malin, pourquoi de parler de ces définitions, parce que ces définitions nous parlent de la manière de l'ennemi d'agir. Voilà. Mais on voit que l'ennemi, il est là présent. C'est-à-dire que c'est une porte ouverte à l'ennemi pour agir. Et nous comprenons que la parole de Dieu dit ceci, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne pas laisser une porte ouverte à l'ennemi. Parce que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a gardé la colère depuis quelques jours, mais il faut régler ça rapidement. Voilà. Ça, il faut régler rapidement, sinon l'ennemi, il est en train de faire déjà son travail. Rappelons-nous, Ésaü. Le Seigneur, il lui a dit, le péché se couche à ta porte, mais toi domine sur lui. Et parce qu'il n'a pas fait ce qui est nécessaire, il a tué son frère. Caïn, merci. Oui, Caïn, oui. Caïn a tué son frère, mais Dieu l'a prévenu. Le pardon, les frères et sœurs. On ne se parle plus, on se croise, mais bonjour, bonsoir. C'est des réalités qui se trouvent aussi au sein de l'Église, mais frères et sœurs, Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Comment peut-on parler de réconciliation avec les païens si nous-mêmes, on n'est pas capable de se réconcilier avec son frère ou sa sœur? Oui, mais c'est lui qui a commencé. Moi, je suis plus vieux. C'est aux plus jeunes de faire le pas. Dans ce cas, il faut revenir à la parole. La parole nous dit ceci, si tu vas présenter ton offrande à l'autel, ben laisse ton offrande là, puis va te réconcilier avec ton frère. Après, tu viendras présenter ton offrande. Sinon, notre offrande n'a aucune valeur, ne sert à rien. Dans la prière que le Seigneur il a enseignée, il dira, pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Ben, oui, Seigneur. Et si nous ne nous pardonnons pas, ben la conséquence, c'est que le Seigneur ne nous pardonne pas non plus. Alors, ne laissons pas toutes ces choses-là s'installer dans notre vie parce qu'ils endurcissent notre cœur et au point que l'insensibilité est en train de s'installer dans notre cœur. Ça va mettre du temps, mais l'ennemi, il est déjà dans l'éternité et il est déjà dans la condamnation. Il va mettre 20 ans ou 15 ans ou plus, mais... Alors, frères et sœurs, je voudrais nous inviter vraiment à, là, écouter la voix de Dieu. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai, je souperai avec lui. La solution du Seigneur, il parle ici d'un état catastrophique de l'Église. Mais il dit, la solution, c'est que tu m'ouvres, que je rentre, et puis qu'on reprenne la communion, qu'on partage le repas. J'ai un repas à te donner, tu as des choses à me partager. C'est ça que le Seigneur veut, c'est ça la solution. Mais au préalable, il dit, aie du zèle, repens-toi. Ce n'est pas une chose à la légère, ça. Le Seigneur dit, aie du zèle, sois zélé pour ça. Reprends-toi, sois zélé dans ta repentance. Ne fais pas une repentance de façade, mais il faut que cette repentance soit profonde. Et s'il faut s'y reprendre à plusieurs fois, prends du temps dans la présence de Dieu. Parce qu'il en va de ta vie et de ceux qui sont avec toi. Quand on commence à sentir que, on dit j'ai des difficultés à faire des efforts. J'ai plus le goût de servir. Je fais, mais... J'ai plus ce goût, cet entrain, cette motivation du départ. Aïe, aïe, aïe. Là, je crois qu'il n'y a qu'une seule solution, c'est va dans ta chambre. Là. Et là, parle au Seigneur. Invite le Seigneur. Dis-lui, ouvre-lui ton cœur. Et s'il faut s'y reprendre plusieurs fois, sois zélé. Parce que la repentance, c'est le seul chemin qui nous réconcilie avec Dieu. En troisième, je vais parler du premier qui a été cité, le chemin. Dur. Voyez ? Quand on laisse le monde commence à entrer et qu'il dépose dans le cœur des pierres, au bout d'un certain temps, ce cœur devient dur. Et ça parle de l'insensibilité. Le cœur devient insensible. Je vais à la réunion, mais... On dit que j'entends plus. Je sens plus. Je me pose la question. Alors peut-être aussi que c'est le prédicateur qui ne prend pas comme il faut. Ça, c'est possible aussi. Voilà. Et souvent, c'est bien dans cette direction-là qu'on... Voilà. Mais il faudrait peut-être se poser autrement la question. Est-ce que quelque part mon cœur ne s'est-il pas endurci à cause du chemin que j'ai parcouru, des choses que j'ai vécues? Dernièrement, j'ai parlé du fait que il y a deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Le dimanche, jour de la résurrection, alors que des femmes ont rendu témoignage que le Seigneur est ressuscité, que des anges leur sont apparus, Ils ont entendu tout cela. Ils ont entendu ce témoignage des femmes comme des témoignages des disciples qui sont allés et qui ont vu que le tombeau est vide. Mais il dit, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais voilà. Parce que les choses ne se déroulent pas comme on veut. Et je crois que c'est l'un des dangers qui guette l'enfant de Dieu, c'est de vouloir amener Dieu au niveau de sa réflexion, de sa conception des choses. Je crois que Dieu, il est plus grand que ça, frères et sœurs. Et Dieu veut nous élever pour le connaître dans sa grandeur, dans sa puissance, dans son autorité, dans sa souveraineté. Résultat, le chemin nous parle de l'activité. Hein? Quand on est en activité, on marche tout le temps. Hein? Voilà. L'occupation, finalement, on n'a pas le temps. On n'a plus le temps. Mais il faut prendre le temps. Quand on veut, on prend le temps. Et résultat, quand on lit la parabole des semeurs, dans, je ne sais plus si c'est dans Marc ou Luc, il dit... Il piétine la parole. Voyez? Piétiner, c'est mépriser la parole. Et je crois, frères et sœurs, que de ce fait-là, eh bien, même quand le Seigneur fait route avec nous, on ne sait pas. On ne sait pas qu'il est là avec nous dans la rue. On ne sait pas qu'il est là avec nous au travail. Et puis parfois, on a des réactions qui sortent du... Et il y a des mots qui sortent de la bouche. Qui... Alors, cela, quand un terrain ne produit plus pour le producteur, l'exploitant, si son terrain ne produit plus, qu'est-ce qui le guette? Pardon? La faillite, la ruine, la misère, la pauvreté. Voilà ce qui attend quand il n'y a pas de réaction. Mais la volonté de Dieu, c'est ce terrain où un grain donne 100, ou 60, ou 30. C'est la volonté de Dieu pour nous, pour toi, mon frère, ma sœur. Quel que soit l'âge que nous avons. Le Seigneur a dit, je suis venu afin que nous ayons la vie. Et la vie en abondance. Alléluia. Oui. Et vous savez, quand le Seigneur dit, vous êtes le sel de la terre. Mais quand le sel devient pauvre, il perd sa saveur. Ben, c'est l'augmentation du péché, mes frères et sœurs. La corruption prend de la place. Quand la lumière qui était forte au départ... devient une lumière tamisée. C'est vrai, c'est beau pour créer de l'ambiance dans la maison. Mais le Seigneur n'a pas demandé aux croyants d'être une lumière tamisée. Il dit, vous êtes la lumière. Eh bien, quand la lumière est tamisée, les ténèbres sont en train de prendre la place. Alors, la solution, le Seigneur l'a dit, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est... Si tu ouvres, j'entrerai, je souperai avec toi. Et les disciples d'Emmaüs, c'est bizarre parce qu'il y a, quand même, enfin c'est bizarre, c'est pas tellement bizarre, mais quand on voit ces deux textes, ils vont partager le souper, ils vont dire au Seigneur, Seigneur, le jour est à son déclin, viens, entre avec nous. Mais ils ne savent pas que c'est le Seigneur, viens, entre avec nous, soupe avec nous, peut-être dors avec nous, et puis demain tu continueras ton voyage. Et ils ont, la Bible nous dit qu'ils ont insisté, si bien que le Seigneur est resté. Insistons, frères et sœurs. Et peut-être que nous allons entrer dans notre chambre, nous allons prier, mais on ne ressent pas, on n'a pas cette paix. Alors insistons, Seigneur, je veux, je cherche, je te cherche, Seigneur. C'est toi la vie, sans toi, je n'ai plus de vie. Le souper, c'est le repas du soir. Je l'ai dit tout à l'heure. Et moi, en lisant ce texte, ce passage, en préparant cette prédication, je me suis posé la question. Est-ce qu'au travers des événements que nous sommes en train de vivre, là, est-ce que ce n'est pas le Seigneur qui est en train de frapper? À la porte de l'Église, pour nous interpeller sur la nécessité de nous recentrer. Je vais terminer, frères et sœurs, pour dire, retrouvons, quand il y a de l'abondance, eh bien, la pauvreté recule. Je parle de l'abondance spirituelle, richesse spirituelle, lorsque le croyant se met à chercher Dieu, se met à entrer en contact, à prendre le temps avec Dieu, eh bien, la pauvreté spirituelle recule. Et nous avons cette force de pouvoir résister à l'ennemi et résister au péché, aux appels du monde. Nous retrouvons le zèle pour les bonnes œuvres. Prenons le temps de souper, de partager le repas, de prendre du temps chaque jour, lire, dis Seigneur, donne-moi le repas, donne-moi le pain de ce jour, parce que j'en ai besoin. Et, excusez-moi, je crois que je l'ai noté quelque part, mais ça ne fait rien. On va lire Matthieu chapitre 5 pour terminer. Oui. Matthieu chapitre 5 et le verset 13, il dit: vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne peut être cachée. On n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau ou un boisseau, mais on la met sur un support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et il dit ceci, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes, vos bonnes œuvres, votre belle manière d'agir, et qu'ainsi ils glorifient votre Père céleste. Alléluia. Frères et sœurs, influons sur le monde. Mais pour influer sur le monde, il faut entrer dans la chambre et prendre du temps avec Dieu. Alléluia.